1984, Saint-Joseph, séminaire de politique, livre 4 d'Aristote. Livre 3 et non livre 4.
Je dois exposer le livre 3 de la politique d'Aristote. Alors, pour introduire ce livre 3, j'essaie de rappeler quelques petits points que l'on a vus dans le livre 1 et dans le livre 2. Dans le livre 1, nous avions vu que la communauté politique était enracinée dans la nature, et que c'est à cause de cet enracinement dans la nature qu'on pouvait parler d'une philosophie politique. Sans cet enracinement dans la nature, il n'y aurait qu'un art. Alors, on a parlé de cette communauté politique, cette koinonia, qui était dans le livre 1, cette mise en commun des relations humaines dans ce qu'elles avaient de plus qualitative. Donc, dans le livre 1, on a un regard sur la finalité, et cette finalité qui est le bien commun. Donc, le livre 1 est illuminé par le bien commun, et ça a permis de nous montrer, de nous remontrer que l'activité humaine ne se comprenait pas entièrement par le point de vue du bonheur, mais en même temps, par le point de vue du bien commun, qui est la finalité de la vie politique. Alors, dans le livre 2, Aristote pose le problème de la mise en commun, de la koinonia entre les citoyens, mais de manière toute différente. Dans le paragraphe 2, là j'emploie les belles lettres, dans le paragraphe 2 du chapitre 1, me permet de relire plutôt. Il faut partir du principe qui est le point de départ naturel de cet examen, savoir que les citoyens ont tous nécessairement en commun toutes choses ou aucune ou certaines d'entre elles et non pas d'autres. Alors Aristote regardait déjà le point de vue de l'ordre de la mise en commun de l'ordre. Alors, bien entendu, il y avait en arrière-fond Platon, mais déjà dans le livre 2, je crois qu'on rentrait déjà dans le conditionnement politique, d'où l'analyse était plus difficile et moins rigoureuse. Alors, le livre 3 va mettre en pleine lumière le problème de l'ordre, et on va pouvoir voir comment l'ordre va pouvoir exister dans la cité. Voilà, alors c'est une petite introduction. Il y a peut-être une première remarque de méthode avant de rentrer dans le livre 3. Nous avions vu que dans le livre 1, Aristote regarde la cité à travers l'élément qui est la communauté fondamentale et qui était la famille. Ici, dans le livre 3, on le voit dès le début, Aristote annonce sa méthode d'analyse, il pose le problème, qu'est-ce que la cité ? Il repose la question, qu'est-ce donc que la cité ? Et il semble que l'élément, dans le livre 3, soit le citoyen. Alors, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que ces méthodes sont contradictoires ? Il semble que oui. Dans le livre 1, l'élément, c'est la famille, avec les diverses relations qui existent dans la famille. Et dans le livre 3, on a comme élément le citoyen. On regarde la cité dans la lumière du citoyen. D'où ce qui a fait dire à plusieurs historiens et d'Aristote, il y a un premier Aristote platonicien, celui du livre 3, celui du livre 3, et l'Aristote de l'âge mûr, c'est le livre 1, dans la lumière de la cause finale. Alors, comment il faut résoudre ce problème? Il y a sans doute deux regards très différents. Très différents. Dans le livre 1, tout est regardé dans la lumière du bien commun, et dans le livre 3, tout est regardé dans la lumière de l'ordre. Alors, ça va faire en sorte qu'on va avoir deux méthodes très différentes, deux regards très différents. Dans le livre 1, ça sera la famille. Dans le livre 3, ça sera le citoyen. Mais le citoyen regardé par la Constitution, ce qu'Aristote appelle politeia. Je ne connais pas le grec, mais pour ceux qui connaissent, je pense que ça peut préciser un petit peu. Donc la Constitution, c'est vraiment ce qui va donner l'ordre à la cité. Et il l'annonce dès le début du livre 3. Et le citoyen, ça sera l'élément, ça sera la forme dans la cause matérielle. Je ne sais pas si la forme dans la cause matérielle, c'est l'homme qui est informé par la Constitution et qui devient citoyen. Je crois qu'on peut dire ça. Alors, dans la première partie, on va regarder ce que c'est que le citoyen. Alors peut-être que, avant encore une fois de rentrer dans le livre 3, je peux donner rapidement la structure du livre 3. Du chapitre, il y a 17 chapitres. Du chapitre 1 à 5, Aristote va chercher ce qu'est le citoyen et il va nous donner différentes approches. Il va nous donner 7 grandes approches de la définition de la citoyenneté. Et il y en aura peut-être deux à retenir. Alors, deux qui sont plus importantes. Ça sera, enfin on les verra, ça sera la deux définitions qui seront dans la lumière de la cause formelle. Ça sera peut-être les définitions les plus analogiques. Enfin, je n'insiste pas pour le moment. Et puis une définition qui regardera le citoyen dans la lumière de la cause finale, avec le point de vue de la vertu du bon citoyen et la vertu de l'homme de bien. Bon, et puis dans une deuxième grande partie, nous garderons, Aristote regarde la diversité des constitutions. Alors on regardera essentiellement par le point de vue des constitutions, de ce qu'Aristote appelle les constitutions droites et les constitutions déviées. Alors on regardera très rapidement. Et puis une troisième partie, où Aristote réintroduit le problème de la justice distributive, par le point de vue de la finalité de la communauté politique. Et ce sera peut-être intéressant de voir pourquoi Aristote réintroduit le point de vue de la finalité de la vie politique dans le livre 3. Et une quatrième partie qu'on ne verra pas, qui traitera de la royauté. Ce sera les derniers chapitres du chapitre 13 ou chapitre 17, je crois, enfin, jusqu'à la fin. Peut-être que l'exposé suivant en traitera davantage. Alors, je rentre dans la première partie. Qu'est-ce que le citoyen? Alors, Aristote rejette d'emblée quatre définitions de citoyenneté qui lui semblent insuffisantes Alors là, je vais vite. Il rejette le point de vue du citoyen naturalisé. Il ne suffit pas d'être naturalisé pour être citoyen. C'est vraiment la causalité matérielle et ça donne pas une intelligibilité assez grande à la notion de citoyen. Il rejette aussi le citoyen. Le citoyen n'est pas citoyen du fait qu'il a le droit d'ester en justice. Ester en justice, c'est la faculté d'être défenseur ou demandeur dans une action en justice. Il rejette aussi les cas de citoyens qui sont citoyens imparfaitement ou émérites. Les enfants ne sont pas encore citoyens pleinement et les vieillards ne le sont plus. Et là, le quatrième point, les citoyens ne peuvent pas être appelés citoyens du fait de leur exil. Alors, il rejette ces quatre points, et puis il pose, juste après avoir rejeté ces quatre points, il nous donne une première définition de la citoyenneté, en disant, le citoyen, c'est celui qui participe à l'exercice de l'autorité, du juge et du magistrat. Alors, il y a peut-être la question de la méthode. La méthode peut peut-être regarder quelle méthode emploie Aristote. Il rejette quatre éléments de citoyenneté et il nous donne une première définition du citoyen. Alors, est-ce que c'est un procédé inductif ou est-ce que c'est un procédé de déduction, tout simplement? Alors, c'est peut-être une question qui est pas facile. J'y ai pas trop répondu. Alors, donc Aristote cherche ce qu'est le citoyen au sens strict. Alors, aussi, pour ceux qui savent le grec, c'est le citoyen aplos. C'est le citoyen parfaitement, celui qui est citoyen. Alors, je rappelle sa première définition et on peut-être la regarder. Le citoyen, c'est celui qui participe à l'exercice de l'autorité du juge et du magistrat. Alors, on voit que la partie est engagée dans la vie du tout, dans la vie de. Le citoyen est engagé dans la vie de la cité. C'est une définition très, très large. Le fait de juger et commander, cela fonde la coopération. Le magistrat, c'est celui qui commande. Juger et commander, ça fonde vraiment la coopération. Et également, donc, le point de vue de la participation. Juger et commander, je crois que les termes importants, c'est vraiment cela. Juger et commander, ça fonde la coopération et en même temps, donc, la participation. Donc, Aristote donne cette définition et on est vraiment dans la philosophie politique parce qu'il cherche vraiment ce qu'est le citoyen et il se rend compte que d'expérience, les constitutions sont nombreuses par leur genre et étant donné que les constitutions sont nombreuses, les formes de citoyenneté sont nombreuses, parce qu'on est citoyen d'une constitution. Et il se rend compte que la première définition qu'il donne s'applique le mieux à la démocratie. D'où c'est une définition, sa première définition, elle est sans doute pas assez analogique et trop trop générique, trop univoque. D'où il nous donne une deuxième définition qui reprend la première, mais qui l'explicite davantage. Alors il nous dit dans sa deuxième définition, dans sa deuxième approche, il nous dit que le citoyen, c'est celui qui a la capacité de participer à l'exercice de l'autorité publique, non, plutôt je pense que les traductions disent à l'autorité délibérative et judiciaire. Donc c'est celui qui a la capacité de participer à l'autorité délibérative et judiciaire. Alors, qu'est-ce que cette deuxième définition apporte par rapport à la première ? Elle apporte sans doute une notion de liberté. Et puis il y a ce terme capacité qui est rajouté. Donc on est celui qui est citoyen, c'est celui qui a une capacité propre. Et les capacités de chacun sont très diverses. Alors c'est donc d'où une définition beaucoup plus analogique. Alors Aristote le montre, mais ceux qui ont cette capacité propre ne l'exercent pas tous. Non, ne l'exercent pas tous. Il y a des citoyens qui exercent cette capacité et d'autres qui ne l'exercent pas. D'autres qui ne l'exercent pas. Et alors, comment expliquer ça ? Comment expliquer que il y a des citoyens qui l'exercent, d'autres qui ne l'exercent pas ? C'est sans doute par le. On peut peut-être le comprendre en regardant que ceux qui exercent leur capacité, c'est ceux qui ont la charge de commandement, et ceux qui n'exercent pas cette capacité, on doit obéir à celui qui est le gouvernant. Et donc, le fait de commander et le fait d'obéir. Alors, pour Aristote, le fait de commander et le fait d'obéir, c'est faire œuvre commune. Celui qui obéit fait œuvre commune avec celui qui commande. Et donc celui qui obéit doit avoir l'intelligence du bien commun. Je ne sais pas du tout si on peut déjà en parler ici, mais peut-être que c'est implicite. Celui qui obéit doit avoir l'intelligence du bien commun. C'est celui qui obéit ici, c'est celui qui n'exerce pas sa capacité. Mais il doit avoir l'intelligence du bien commun, et il doit coopérer avec celui qui gouverne. Alors je crois que le point de vue de l'intelligence est important. Dans cette deuxième définition. J'espère que c'est assez clair. Je crois. Voilà, et Aristote, pour conclure à cette deuxième définition, nous dit que la cité, c'est vraiment l'ensemble des citoyens, de ces citoyens, ce genre de citoyens, et l'ensemble de ce genre de citoyens qui pourra permettre l'autarkeia, l'autarxie, donc l'indépendance de la cité. Puis, donc, nous avons une troisième définition. Alors, la troisième et la quatrième, j'irai très vite, elles sont importantes, mais peut-être plus secondaires. La troisième définition, c'est le chapitre 2. C'est le citoyen qui est défini par le point de vue de l'origine. Est-ce que cela suffit de dénommer ou d'appeler citoyen celui qui a des ancêtres qui habitent dans le pays ? Alors là aussi, cela donne pas. On s'en sert souvent dans la pratique, mais cela donne pas une intelligibilité très grande sur la notion de citoyenneté. Puis une quatrième définition, Aristote pose le problème de ceux qui ont acquis le droit de cité par une révolution. Aristote se pose le problème de leur légitimité. Est-ce que c'est légitime d'être citoyen quand on a acquis le droit de cité par une révolution ? Alors il admet très vite qu'ils sont citoyens malgré tout. Mais le problème de la légitimité, il ne répond pas. Ils sont citoyens, mais au problème de la légitimité, il ne répond pas. Il pose la question, il laisse la question en suspens. Alors, à partir de là, il y a une petite digression qui est intéressante. Peut-être, j'en ai déjà peut-être un petit peu parlé. Il pose le problème, lorsque la constitution change, la cité est-elle toujours la même ? Alors, quand la constitution change, la matière, donc le citoyen,
l'homme, la matière, est informé autrement, car la forme change. Car la forme, donc la constitution, change. Et donc, il paraît clair que la cité change lorsque la constitution change. Alors, et il prend l'analogie qui est assez belle des membres d'un cœur qui peuvent être les mêmes, mais le cœur peut être ou tragique ou comique. Ça fait bien comprendre que le fait que la cité peut. La constitution peut informer différemment. Et puis, donc on arrive à la cinquième approche, c'est le chapitre 4. C'est le chapitre 4 où Aristote pose le problème de la vertu du citoyen. Est-ce que la vertu du citoyen est la même que celle de l'homme de bien ? Alors la réponse permettra sans doute d'encore mieux distinguer le point de vue éthique et le point de vue politique. Alors, que représente la vertu du bon citoyen ? Peut-être intéressant de lire cette... Donc, que représente la vertu du bon citoyen ? Là, je suis au début du chapitre 4. Mais si ce point doit faire l'objet d'une recherche, une image permettra d'abord de saisir ce qu'est la perfection du citoyen. De même que chaque matelot est l'un des membres d'une communauté. Ainsi en est-il, disons-nous, du citoyen. Ces matelots ont beau différer par leur capacité, l'un est rameur, un autre pilote, un autre la vigie, un autre reçoit quelque autre dénomination du même genre, il est clair que la définition la plus exacte de la perfection de chacun n'est propre qu'à lui, mais qu'il y en aura également une qui sera commune, et qui s'adaptera à tous. En effet, la sécurité de la navigation est leur tâche à tous, car c'est à cela qu'aspire chacun des matelots. Alors cette analogie, donc Aristote, pour nous donner sa cinquième définition, se sert de cette analogie des matelots. On voit qu'ils ont tous une perfection qui leur est propre, mais ils ont tous en commun la sécurité de la navigation. Et c'est à partir de cette analogie qu'il nous donne sa définition, sa cinquième définition. Le citoyen, les citoyens sont tous dissemblables entre eux par leur capacité, mais ils ont tous comme tâche le salut de la communauté, la réalisation du bien commun. Je crois que c'est important. C'est un des points importants de... notion de citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui a comme tâche et qui œuvre au salut de la communauté et à la réalisation du bien commun. Alors, dans la suite du chapitre 4, Aristote se demande comment le citoyen va-t-il réaliser cette tâche ? Comment va-t-il réaliser cette œuvre ? Alors, il y a peut-être trois choses à voir pour répondre à cette question. La première chose, c'est que le citoyen, la condition qui semble première, c'est la possession d'une vertu politique. C'est une des choses importantes. C'est la vertu politique qui donnera au citoyen le sens du bien commun. Et Aristote constate d'expérience, il est clair que l'on peut être un bon citoyen sans être forcément un homme de bien. Ça, c'est des choses importantes aussi. Tous les citoyens ne sont pas des hommes de bien, tendent vers cette perfection morale, mais ne sont pas tous des hommes de bien. Et on peut être un bon citoyen, on peut avoir le sens du bien commun sans être un homme de bien. Je peux coopérer au bien commun sans accéder au bonheur. Alors, il y a quelque chose qui, j'ai peut-être dit, mais la vertu politique dispose vraiment à la vertu parfaite. C'est important. Alors, pour répondre toujours à ma question, comment Aristote va-t-il réaliser cette tâche, cette œuvre? Il y a le point de vue du l'exemple, ou l'unique exemple du gouvernant, qui est citoyen, Maxime étalé, c'est celui qui est le citoyen par excellence. Alors, comment va-t-il, lui, réaliser cette tâche, cette œuvre, réaliser le bien commun, réaliser le salut de la communauté? Je crois qu'il faut au gouvernant, et ça, Aristote insiste, il faut au gouvernant la prudence. La prudence. Donc il faut au gouvernant la vertu parfaite, qui est la prudence. Et c'est là où la vertu éthique va rejoindre la vertu politique chez le gouvernant. Il semble que ce soit nécessaire, parce que le gouvernant sera celui qui gouvernera le bien commun, qui le menera, et qui en sera garant. Et pour cela, il lui faut la prudence et l'intelligence du bien commun. Alors, la troisième manière de répondre à la question, de savoir comment le citoyen va réaliser cette tâche de salut de la communauté, c'est peut-être ce qu'on a touché un petit peu par le point de vue de l'obéissance et du commandement. Celui qui obéit, c'est le citoyen, et celui qui commande, c'est le propre du gouvernant. Alors, par l'obéissance, ce que je disais, peut-être pas que je relise trop, par l'obéissance, celui qui obéit coopère avec celui qui commande à la même tâche, à la même œuvre, qui est la réalisation du bien commun, qui est le salut de la communauté. Et c'est par le point de vue de l'intelligence, du bien commun, qu'ils réaliseront parfaitement cette œuvre. Voilà. Et puis, donc je passe sixième et septième définition qui sont explicitées dans le chapitre 5. Alors, très vite, on est citoyen plus ou moins parfaitement. Les enfants sont citoyens de manière moins parfaite que les adultes. Et la septième définition, c'est le paragraphe 9 du chapitre 5. Celui qui est citoyen, c'est celui qui participe aux honneurs. Donc on a sept grandes approches de la citoyenneté. Alors il y a peut-être une question à se poser après avoir regardé ces sept moments, ces sept approches. Pourquoi il y a ces sept approches successives? Alors ces sept approches, on ne pourrait pas mieux les comprendre par les différentes causes? Alors, Je crois qu'on peut dire que les premières et deuxièmes définitions qui regardaient le citoyen par le point de vue de la Constitution, celui qui a la capacité de juger et de commander, c'est sans doute la cause formelle. La troisième approche, le point de vue de l'origine, c'est la cause matérielle. La quatrième approche également, le point de vue de la légitimité, de l'illégitimité de la citoyenneté, c'est sans doute aussi la cause matérielle. La cinquième approche dans le chapitre 4, par le point de vue de, quand Aristote essaie de regarder le point de vue de la vertu de l'homme politique et de la vertu de l'homme de bien, c'est la cause finale. Et puis les sixième et septième approches, on est citoyen plus ou moins parfaitement, on est citoyen parce que on a les honneurs, c'est vraiment la cause exemplaire. Alors ça donne une... On a des regards très différents qui se tiennent très fort. Et sans doute que Alors il serait peut-être intéressant de regarder l'ordre des causes, la manière dont Aristote nous indique ces différentes approches, peut-être Enfin, tout est relié, bien entendu. Mais relier les deux premières définitions à la cinquième, le regard de la cause formelle en regardant avec celle de la cause finale, ça semblerait intéressant. Alors, donc je regarde maintenant dans la deuxième partie, on regarde un petit peu ce que c'est que les constitutions. Et Aristote se demande dès le départ, c'est le chapitre 6, je crois. Oui, le début du chapitre 6, il y a un intitulé « Les constitutions et leur classification ». Je ne sais pas si, de toute façon, ce n'est pas d'Aristote, mais c'est vraiment cela, je crois. Alors, Aristote se pose la question, doit-on admettre une seule forme de constitution ou plusieurs? Pour chercher quelle est la meilleure constitution, le point de vue de la finalité revient. Et le deuxième problème qui se pose, combien y a-t-il d'espèces d'autorité? Alors, si je réponds à la première question, en vue de quelle fin s'est constituée une cité. Alors, il y a une magnifique page qu'il faut lire, où Aristote pose ce problème de la finalité de la cité. Il reprend un petit peu certaines choses du livre 1. Il faut d'abord fixer, c'est au paragraphe, c'est la page 65, c'est le paragraphe 2 du chapitre 6, 178b15, quelque chose comme ça. Il faut d'abord fixer ces points fondamentaux en vue de quelle fin s'est constituée une cité et combien y a-t-il d'espèces de l'autorité qui a pour objet l'homme et sa vie en société. Dans un premier exposé, à propos de définition au sujet de l'administration domestique et de l'autorité du maître, on a déjà dit, entre autres choses, que l'homme est par nature un animal politique. Voilà pourquoi, même s'ils n'ont pas besoin d'aide réciproque, les hommes n'en aspirent pas moins à vivre ensemble. Néanmoins, même leur intérêt commun ne les réunit que dans la mesure où par loi échoit à chacun une part de bien vivre. Cette vie heureuse, certes, est la fin première de tous en commun et de chacun en particulier, mais on se rassemble aussi et l'on maintient la communauté politique simplement pour vivre, car peut-être trouve-t-on déjà une part qui est belle dans le seul fait de vivre, pourvu que l'existence ne soit pas surchargée de peines excessives. Il est évident que la plupart des gens endurent beaucoup de souffrances, attachés qu'ils sont à la vie, comme s'il y avait en elle je ne sais quel gage de bonheur et quelle douceur naturelle. C'est difficile de abîmer une belle page comme ça. Donc, Aristote pose la question, si on peut dire, pourquoi les hommes aspirent-ils à vivre ensemble? On a vu donc cet enracinement naturel de la communauté, de l'homme, de l'animal politique. On l'avait vu dans le livre 1, dans le chapitre 2, où pour montrer que la famille était enracinée, qu'il y avait un enracinement naturel dans la famille, Aristote nous disait que l'homme avait naturellement le désir de laisser après lui quelqu'un de semblable à lui. Et c'est ce qui fondait, c'était vraiment ce qui enracinait dans la communauté, l'homme dans la nature. Alors, les hommes aspirent à laisser quelqu'un de semblable à eux après eux. Alors, il y a ce point de vue de la koinonia, cette mise en commun. Et Aristote semble dire que cette mise en commun est plus qu'un point de vue utilitaire. Il y a plus dans la koinonia qu'un point de vue utilitaire. Et il insiste sur le bien vivre. Et le bien vivre, ça semble être la fin première de la communauté politique. Ce n'est pas le bonheur, il faut faire attention. La fin première de la communauté politique, c'est le bien vivre et pas le bonheur. Alors là, j'ai lu cette vie heureuse. C'est pas, je crois que c'est pas du tout comment Tricot traduit, mais je crois pas que ça soit vie heureuse. La vie commune n'est pas une vie heureuse. C'est sûr. c'est une disposition. La vie en commun, c'est une disposition. Mais il est intéressant de voir qu'on maintient malgré tout la communauté pour vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Aristote parle de beauté. Peut-être trouve-t-on déjà une part qui est belle dans le seul fait de vivre, pourvu que l'existence ne soit pas surchargée de peines excessives. Alors, le fait de vivre, cela semble apporter une douceur naturelle, une certaine euphorie. La communauté doit permettre de vivre dans une certaine beauté. Et c'est peut-être là qu'on pourrait avoir une piste pour comprendre ce que dit Aristote dans l'éthique, lorsqu'il dit que le bien commun est plus parfait et plus divin que le bien particulier. Il y a une certaine beauté dans le fait de vivre ensemble. Alors, pourquoi il y a une certaine beauté ? C'est sans doute par la vertu de la magnanimité. Aristote n'en parle pas explicitement, mais peut-être qu'on peut un petit peu voir. Celui qui est magnanime, c'est celui qui se donne, qui agrandit son action dans la vie commune, qui agrandit son cœur. Et cette magnanimité fait que rejaillit une certaine beauté sur l'ensemble. C'est vrai que quand on supprime la beauté dans la vie commune, il y a deux choses. Enfin, il ne faut pas que je dise que la beauté est le fruit de la magnanimité, c'est le contraire. Mais quand on supprime la beauté, il y a une espèce d'anarchie, où il n'y a plus aucun ordre, et c'est laid, où on devient vertueux, de petite vertu, l'homme de devoir, et là aussi c'est quelque chose de très laid. Et alors que celui qui est magnanime, c'est celui qui fait rejaillir toute sa grandeur dans la vie commune, c'est celui qui supporte avec une grandeur d'âme, c'est celui qui a une grandeur d'âme. Je crois que c'est peut-être un point intéressant. Alors, donc j'ai fini de regarder ce qui constituait la fin de la cité. Alors je regarde maintenant la question que je posais tout à l'heure. Combien y a-t-il d'espèces d'autorité ? Alors, je vais essayer d'aller vite, je ne sais pas très bien. Je suis au chapitre 6, au paragraphe 6. Aristote reparle ici de l'autorité du maître sur l'esclave. Et ça semble un petit peu contredire ce qu'il nous avait dit au livre 1. Au livre 1, c'était pas très clair, mais on semblait comprendre que le maître recherchait quand même le bien de son esclave. Mais là pas du tout. Il a l'air de revenir en disant que l'autorité du maître est toujours un peu despotique. Le maître profite un petit peu de son esclave. C'est toujours un peu despotique. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas là la caricature, enfin, ce que c'est que le pouvoir ? C'est peut-être intéressant de voir. Et au paragraphe 7... nous avons l'autorité du père qui s'exerce donc sur ses enfants et sur la femme, l'autorité sur les enfants, sur la femme et sur toute la maison, que nous appelons précisément le gouvernement domestique, s'exerce soit dans l'intérêt de ceux qui y sont soumis, soit en vue de quelques biens communs. Alors là, c'est vraiment le problème, le point de vue de l'autorité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ces deux paragraphes, la distinction entre autorité et pouvoir? Le pouvoir, ce serait vraiment l'autorité du maître qui profite de son esclave sans rechercher son bien. Ça serait le pouvoir. Et l'autorité du père, c'est celui qui cherche le bien des enfants et de la femme et de toute la maison. Puis dans le paragraphe 9 et 10, il y a le... On regarde le problème de l'autorité dans la cité. Qu'est-ce que l'on constate au niveau de la cité? Alors, on constate très souvent que les hommes s'attachent à leur autorité. Quand on leur confie la tâche de gouvernant, ils s'attachent à leur autorité, ils transforment très vite cette autorité en pouvoir, puisqu'ils la possèdent. Et très, très vite, on constate ça d'expérience. Et Aristote le remarque, là, dans le chapitre 9 et 10. Et c'est quand même assez surprenant. Enfin, c'est bien ce dont on s'aperçoit aujourd'hui encore. Alors, juste après, là je passe aux diversités des constitutions. Aux diversités des constitutions. Aristote nous dit, avant de nous énoncer ces diversités de constitutions, qu'il y a plusieurs sortes de gouvernements. Il y a des gouvernements qui sont tenus par un seul individu, il y a des gouvernements qui sont tenus par un petit nombre, et il y a des gouvernements qui sont tenus par la masse tout entière. Et il affirme que les constitutions sont correctes quand elles sont en vue de l'intérêt général. Donc les constitutions sont correctes quand elles sont en vue de l'intérêt général, mais il y a corruption quand elles sont en vue de l'intérêt particulier. Alors, après, il nous donne... Petit aperçu des différentes formes de constitution, on verra sans doute beaucoup plus dans l'exposé suivant. Il nous montre qu'il y a des constitutions qui sont bonnes et des constitutions qui sont perverties. Alors, quand l'intérêt général est respecté, la constitution qui est aux mains d'un seul, c'est la royauté. C'est la royauté. C'est celui qui gouverne, là, c'est l'homme prudent. Le roi, c'est l'homme prudent. C'est celui qui a une intelligence du bien commun. Quand le gouvernement est tenu par un petit nombre, Aristote l'appelle l'aristocratie. C'est l'aristocratie. Et il nous dit que ce sont les meilleurs qui gouvernent. Et les meilleurs, c'est aussi le point de vue de la vertu. C'est le point de vue de la vertu. Donc c'est un petit nombre qui gouverne. Et quand la masse possède tout le gouvernement, il appelle ça politique. Je crois que le terme grec, c'est réemploi politeia. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, cette masse qui détient le gouvernement, enfin, puisque c'est l'ensemble? Ils ont tous en commun une seule vertu, qui est la vertu guerrière. C'est pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les corruptions de ces trois formes de constitution.
de constitution, oui. La corruption de la royauté va se transformer en tyrannie. En tyrannie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roi qui possédait la vertu de prudence ne regarde plus que son intérêt propre et devient le tyran et donc gouverne en fonction de lui-même. La corruption de l'aristocratie, ça va être l'oligarchie. Et on verra peut-être. Et puis, la corruption de la politique, ça sera la démocratie. La démocratie. Alors, comment, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comment l'aristocratie va être corrompue en oligarchie? Et comment la politie va être corrompue en démocratie. Alors c'est le problème de l'argent, semble-t-il. Et ça serait intéressant peut-être de revoir tout ce que dit Aristote dans livre 1 sur la monnaie et sur l'argent. La monnaie c'est vraiment un moyen et ce moyen, dans l'expérience, on se rend compte que quand on le transforme en une fin, il corrompt tous les régimes. Puisque la monnaie, on recherche la monnaie pour elle-même, on recherche l'argent pour elle-même, on recherche l'enrichissement, et cela corrompt tous les régimes. Et là, ceux qui sont vertueux, vont se transformer en... Ça va se transformer en l'intérêt des riches. L'oligarchie, c'est l'intérêt des riches. Et la politie, ça va se transformer dans l'intérêt des pauvres. Alors, ce qui serait sans doute intéressant de voir, c'est cette espèce de dialectique. On rentre dans une dialectique, il n'y a plus du tout cette coopération entre celui qui commande et celui qui obéit. Il y a cette recherche de l'intérêt particulier. On recherche le bien-vivre, uniquement le bien-vivre. Et on tombe dans tous les régimes modernes que l'on connaît. Et c'est... Enfin, ça serait peut-être intéressant d'en parler, parce que est-ce qu'on ne peut pas se demander si tous les régimes modernes sont ici? Et est-ce que Aristote n'a pas été un petit peu prophète de tout ce qui arrive aujourd'hui et de tous les régimes dégradés que l'on a aujourd'hui? Alors cette espèce d'opposition entre les riches et puis les pauvres. Alors, est-ce qu'on pourrait pas regarder Rousseau, quand Rousseau dit la propriété c'est la cause de toutes les perversions? Alors est-ce qu'il n'y a pas au fond quelque chose qui est vrai, mais Rousseau ne regarde pas la source, il regarde quelque chose qui est perverti. C'est vrai que l'enrichissement est cause de toutes les perversions, mais c'est pas la propriété. Je crois qu'Aristote dirait que la propriété est bonne, mais elle n'est qu'un moyen du bien vivre. Je crois qu'il y a ça. On pourrait peut-être en parler. Alors, et puis donc, je rentre dans la dernière partie où Aristote réintroduit le problème de la justice en regardant la fin de la communauté politique. Mais j'en ai déjà parlé. Alors, il procède en... Si on regarde le chapitre 9, essentiellement, il semble procéder en trois parties, peut-être quatre. Dans les trois premiers paragraphes, Aristote rappelle un petit peu tout ce qu'il a dit dans l'éthique sur la justice distributive, disant que la justice distributive, c'est vraiment... Regarde la justice distributive, regarde vraiment la qualité de la personne.
et je crois que c'est ça qui est important. Et puis, juste après, il regarde ce que la fin de la communauté n'est pas. Et il nous dit que ce n'est pas uniquement le point de vue des échanges économiques. Ce n'est pas uniquement le point de vue des échanges économiques. Le point de vue des échanges économiques est simplement un moyen. Il existe dans la famille. Il faut pas le supprimer. Il existe également dans la cité, mais c'est le point de vue du vivre. Ce n'est pas encore le point de vue du bien-vivre. Donc la fin de la communauté politique, ce n'est pas le point de vue des échanges économiques. Puis il se pose la question si la fin de la communauté politique, ne serait pas le fait que la loi puisse éduquer le citoyen. Alors, la loi éduque le citoyen. La loi doit être là pour aider le citoyen à acquérir la vertu. Et la vertu la plus parfaite dans la vie politique, c'est la vertu de justice. C'est la vertu de justice. Mais la fin de la communauté politique, c'est pas encore ça. Ça, c'est encore une disposition. C'est quelque chose d'important, mais c'est encore une disposition. Et il est peut-être intéressant de lire la fin du chapitre 9. Au paragraphe 14, une cité, ou plutôt un petit peu avant, ces diverses activités sont l'œuvre de... Je prends un petit peu dans le chapitre. Ceci toutefois, au paragraphe 13, ceci toutefois ne saurait se réaliser sans que les habitants ne soient en un seul et même lieu et ne se marient entre eux. Voilà d'où sont nées dans les États les alliances de famille, les fratries, les sacrifices publics et toutes les relations de la vie en commun. Ces diverses activités sont l'œuvre de l'amitié. C'est filia, là. Mais c'est pas filia, je ne crois pas que ça soit filia au sens où en parle l'éthique. C'est plutôt filia dans le sens de la concordia, je crois. Car le choix délibéré de la vie en commun, c'est de l'amitié. La fin de l'État étant donc le bien-vivre, tout cela n'existe que pour cette fin. La cité est une communauté de familles et de villages vivant d'une vie parfaite et autarcique. C'est cela, à notre avis, mener une vie heureuse et bonne. Voilà, alors on revient là, Aristote met vraiment en pleine lumière le point de vue de la fin de la communauté politique, et il nous montre que c'est vraiment la concorde, qui est cette amitié qui existe entre les citoyens. Et cette concorde, c'est vraiment la disposition ultime au bonheur de chacun. C'est ce qui va disposer vraiment au bonheur de chacun. C'est là où la vertu politique touche de plus près la vertu de l'homme de bien, qui est la vertu la plus parfaite, qui est le bonheur. Alors, après, il y a peut-être une question intéressante, mais je ne sais pas s'il faut la traiter. Aristote se demande si est-ce que c'est la loi qui prime ou est-ce que c'est celui qui a l'autorité. Alors il y a tout un développement de cette question au paragraphe 19 du chapitre 11. Mais je n'en parle peut-être pas. Alors pour conclure, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est très important dans le livre 3, c'est tout le problème de l'éducation. J'en ai un tout petit mot ici, mais c'est sans doute une des choses importantes dont je ne parle pas. Et c'est sûr qu'il faudrait peut-être s'y attacher un petit peu. Alors ce qui est frappant dans ce livre 3, c'est que, donc au début, on a vu le problème de l'ordre. De l'ordre, et on a vu le livre 1, c'est la lumière, c'est le bien commun. Le livre 3, c'est tout le problème de l'ordre, de la cause formelle. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que Aristote, traitant de cet ordre dans la cité, est obligé, enfin se sent obligé, puisque ça revient tout le temps, de revenir à la finalité. D'où, D'où l'ordre qui existe dans une communauté politique ne peut pas, est inséparable de la finalité et doit sans cesse être éclairé par la finalité. Je crois que c'est parce qu'on est dans le conditionnement politique qu'on est obligé de revenir tout le temps à la finalité, d'où l'analyse semble peut-être moins rigoureuse que dans les autres domaines. Et il y a peut-être aussi une deuxième chose qui est importante, c'est que on s'aperçoit que l'ordre est inséparable de l'homme. L'ordre est inséparable de l'homme. L'homme qui vit dans la cité, il est citoyen. Et étant citoyen, il coopère au bien commun et à l'ordre qui existe dans la cité. Et c'est là où on s'aperçoit que la politique doit regarder l'homme. Voilà. Enfin. Il y aurait peut-être une question à se demander, c'est quelle est vraiment la meilleure constitution pour Aristote. Mais peut-être que c'est le sujet du prochain séminaire. Parce qu'il pose déjà.
Ceux qui posent une question par rapport à ce qui était traité.
Est-ce qu'Aristote précise en quoi la démocratie consacrant tout à l'intérêt des pauvres est mauvaise?
C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose que j'ai pas, je sais pas du tout si ça répond à la question, mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas souligné, c'est que là on a le point de vue de là on recherche l'égalité et ici on recherche l'inégalité, on est dans le domaine de l'inégalité. Et c'est pour ça, et c'est intéressant de voir que juste après avoir montré que l'oligarchie et la démocratie étaient des constitutions corrompues, il réintroduit le problème de la justice en nous montrant que la justice ne peut pas se définir uniquement par le problème de l'égalité. Alors, je ne sais pas si ça répond, je crois, je ne sais pas.
Ces formes de gouvernement, ils les considèrent comme corrompues parce qu'il n'y a plus la recherche vraiment d'un bien commun. D'un véritable bien commun. Parce que la tyrannie ne cherche que le bien d'un seul. L'oligarchie ne cherche le bien que d'un petit nombre qui détient l'argent et qui font tout pour s'enrichir plus. Là que ça ne cherche pas le bien commun. Tandis, alors la démocratie ne cherche pas le bien commun parce qu'elle maintient la pauvreté. Donc elle empêche que l'homme puisse bien vivre. C'est une généralisation, si vous voulez, de corruption. Enfin, on a une corruption d'un, on a la corruption de plusieurs, on a la corruption d'ensemble. C'est ça qui est une erreur. C'est dans la démocratie, il y a la corruption de l'ensemble. Là, on ne cherche, il n'y a plus, et c'est en sens-là que c'est la chose à tout. Un régime qui, de fait, va organiser la pauvreté, va faire que l'État lui-même devient plus pauvre. C'est ce qu'on voit.
En supprimant la richesse.
Quoi ?
En supprimant la richesse, il maintient une pauvreté lui-même.
Bah, on pourrait dire en supprimant la richesse, c'est beaucoup plus dans une intention même. La conception de la démocratie, c'est qu'on veut l'égalité à tout prix. Quand on veut l'égalité à tout prix, on va de fait ne plus vouloir que certains puissent dominer les autres. Alors c'est le poids de la masse qui l'emporte. Et le poids de la masse qui l'emporte fait que, de fait, on tombe dans une pauvreté plus grande. Autrement dit, Aristote conçoit que c'est toujours la sainte sous la sainte évadique physiquement. Mais il conçoit toujours que lorsqu'il s'agit d'une communauté, il y en aura toujours quelques-uns qui nous dépasseront, qui porteront le poids des autres. Il faut pouvoir les laisser dépasser les autres pour entraîner les autres. Si vous empêchez que certains dépassent, nécessairement, ça glisse. C'est un poids quantitatif, je dirais, la démocratie telle qu'il l'emploie. Parce qu'on éteint la qualité, on veut l'égalité de tout. Donc c'est cette vision-là, c'est-à-dire que vous supprimez la possibilité pour la personne même d'entraîner les autres. D'atteindre une fin qui soit plus noble, plus grande. Et alors à ce moment-là, tout le monde s'endort dans la pauvreté.
Est-ce qu'au fond, la politique n'est pas réalisable humainement? Puisque il y en a qui puissent être tirés.
Ah, elle est réalisable. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réalisable.
Que tout le monde puisse participer au gouvernement.
Tout le monde puisse
participer. Dit qu'elle est bonne.
Tout le monde, faisons attention. C'est pas tout le monde. C'est tous ceux qui sont capables de participer. Vous voyez, il n'y a jamais. Le suffrage universel n'existe pas en France. Le suffrage universel était introduit après. Alors là, c'est tout à fait différent. Et le suffrage universel en entraîne toutes les corruptions que nous voyons aujourd'hui. Les élections qu'on a dû faire récemment montrent bien la corruption qu'entraîne le suffrage universel. Le suffrage universel entraîne, je crois, en lui-même une inégalité foncière, une injustice foncière. Parce que vous considérez que tous les hommes sont égaux. Un père de famille qui a 5 enfants, un père de famille qui en a un, ou un célibataire, eh bien, il va trouver de la même façon. Et c'est une inégalité, c'est une injustice flagrante au point de vue de la communauté. Parce que les uns ont des responsabilités beaucoup plus grandes que l'autre. Alors je crois que c'est ça qui de fond, maintient une espèce d'injustice radicale. Alors le suffrage universel, ce n'est pas du tout la politique.